Jules Verne, L'île à hélice, deuxième partie, chapitre 9. Un casus belli. Toutefois, alors que nos artistes se dépensent en promenade et prennent un aperçu des mœurs de l'archipel, quelques notables de Standard Island n'ont pas dédaigné d'entrer en relation avec les autorités indigènes de l'archipel. Les Papalangi, ainsi appelle-t-on les étrangers dans ces îles, n'avaient point à craindre d'être mal accueillis. Quant aux autorités européennes, elles sont représentées par un gouverneur général, qui est en même temps consul général d'Angleterre pour ces groupes de l'Ouest, qui subissent plus ou moins efficacement le protectorat du Royaume-Uni. Cyrus Bickerstaff ne crut point devoir lui faire une visite officielle. Deux ou trois fois, les deux chiens de faïence se sont regardés, mais leurs rapports n'ont pas été au-delà de ces regards. Pour ce qui est du consul d'Allemagne, en même temps l'un des principaux négociants du pays, les relations se sont bornées à un échange de cartes. Pendant la relâche, les familles Tangardon et Coverley avaient organisé des excursions aux alentours de Suva et dans les forêts qui hérissent ces hauteurs jusqu'à leur dernière cime. Et à ce propos, le surintendant fait à ses amis du Quatuor une observation très juste. Si nos milliardais se montrent si friands de ces promenades à de hautes altitudes, dit-il, cela tient à ce que notre Standard Island n'est pas suffisamment accidentée. Elle est trop plate, trop uniforme. Mais je l'espère bien, on lui fabriquera un jour une montagne artificielle, qui pourra rivaliser avec les plus hauts sommets du Pacifique. En attendant, toutes les fois qu'ils en trouvent l'occasion, nos citadins s'empressent d'aller respirer, à quelques centaines de pieds, l'air pur et vivifiant de l'espace. Cela répond à un besoin de la nature humaine. Très bien, dit Pinchina. Mais un conseil, mon cher Eucalystus. Quand vous construirez votre montagne en tôle d'acier ou en aluminium, n'oubliez pas de lui mettre un joli volcan dans les entrailles. Un volcan avec boîte fulminante et pièces d'artifice. Et pourquoi pas, monsieur le railleur, répond Callistus Munbar. C'est bien ce que je me dis. Et pourquoi pas, réplique son Altesse. Il va de soi que Walter Tangardon et Miss Di Coverley prennent part à ces excursions et qu'ils les font au bras l'un de l'autre. On n'a pas négligé de visiter à Viti-le-Vou les curiosités de sa capitale, ses Mburekalu, les temples des esprits, et aussi le local, affecté aux assemblées politiques. Ces constructions, élevées sur une base de pierre sèche, se composent de bambous tressés, de poutres recouvertes d'une sorte de passementerie végétale, de lattes ingénieusement disposées pour supporter les chaumes de la toiture. Les touristes parcourent de même l'hôpital, établi dans d'excellentes conditions d'hygiène, le jardin botanique, en amphithéâtre derrière la ville. Souvent, ces promenades se prolongent jusqu'au soir, et l'on revient alors, sa lanterne à la main, comme au bon vieux temps. Dans les îles Fidji, l'édilité n'en est pas encore au gazomètre ni au bec Auer, ni aux lampes à arc, ni au gaz acétylène, mais cela viendra, sous le protectorat éclairé de la Grande-Bretagne, insinue Callistus Munbar. Et le capitaine Sarol et ses malais, et les néo-zébridiens, embarqués au Samoa, que font-ils pendant cette relâche? Rien qui soit en désaccord avec leur existence habituelle. Ils ne descendent point à terre, connaissant Viti-le-Vou et ses voisines, les uns pour les avoir fréquentés dans leur navigation au cabotage, les autres pour y avoir travaillé au compte des planteurs. Ils préfèrent de beaucoup rester à Standard Island, qu'ils explorent sans cesse, ne se lassant pas de visiter la ville, les ports, le parc, la campagne, les batteries de la poupe et de l'éperon. Encore quelques semaines, et grâce à la complaisance de la compagnie, grâce au gouverneur Cyrus Bickerstaff, ces braves gens débarqueront dans leur pays après un séjour de 5 mois sur l'île à hélice. Quelquefois, nos artistes causent avec ce Sarol, qui est très intelligent et emploie couramment la langue anglaise. Sarol leur parle d'un ton enthousiaste des nouvelles hébrides, des indigènes de ce groupe, de leur façon de se nourrir, de leur cuisine, ce qui intéresse particulièrement son Altesse. L'ambition secrète de Pinchina serait d'y découvrir un nouveau mets, dont il communiquerait la recette aux sociétés gastronomiques de la vieille Europe. Le 30 janvier, Sébastien Zorn et ses camarades, à la disposition desquels le gouverneur a mis une des chaloupes électriques de Tribord Harbor, partent dans l'intention de remonter le cours de la Reva, l'une des principales rivières de l'île. Le patron de la chaloupe, un mécanicien et deux matelots, ont embarqué avec un pilote fidjien. En vain a-t-on offert à Athanas Doremus de se joindre aux excursionnistes. le sentiment de curiosité est éteint chez ce professeur de grâce et de maintien. Et puis, pendant son absence, il pourrait lui venir un élève, et il préfère ne point quitter la salle de danse du casino. Dès 6 heures du matin, bien armée, munie de quelques provisions, car elle ne doit revenir que le soir à Tribor Harbor, l'embarcation sort de la baie de Suva et longe le littoral jusqu'à la baie de la Reva. Non seulement les récifs, mais les requins se montrent en grand nombre dans ces parages. Il convient de prendre garde aux uns comme aux autres. « Peuh !» fait observer Pinchina. « Vos requins, ce ne sont même plus des cannibales d'eau salée. Les missionnaires anglais ont dû les convertir au christianisme, comme ils ont converti les Fidjiens. Gageons que ces bêtes-là ont perdu le goût de la chair humaine. » « Ne vous y fiez pas, » répond le pilote, « pas plus qu'il ne faut se fier aux Fidjiens de l'intérieur. » Pinchina se contente de hausser les épaules. On la lui baille belle avec ses prétendus anthropophages qui n'anthropophagent même plus les jours de fête. Quant au pilote, il connaît parfaitement la baie et le cours de la Reva. Sur cette importante rivière, appelée aussi Wailevu, le flot se fait sentir jusqu'à une distance de 45 km et les barques peuvent la remonter pendant 80. La largeur de la Reva dépasse 100 toises à son embouchure. Elle coule entre des rives sablonneuses, basses à gauche, escarpées à droite, dont les bananiers et les cocotiers se détachent avec vigueur sur un large fond de verdure. Son nom est Reva Reva, conforme à ce redoublement du mot qui est presque général parmi les peuplades du Pacifique. Et ainsi que le remarque Iverness, n'est-ce pas là une imitation de cette prononciation enfantine qu'on retrouve dans les papa, maman, toutou, dada, bonbon, etc. Et au fait, c'est à peine si ces indigènes sont sortis de l'enfance. La véritable Reva est formée par le confluent du Vailevu, eau grande, et du Vaimanu, et sa principale embouchure est désignée sous le nom de Vainiki. Après le détour du delta, la chaloupe file devant le village de Kamba, à demi caché dans sa corbeille de fleurs. On ne s'y arrête point, afin de ne rien perdre du flux, ni au village des Naitsari. D'ailleurs, à cette époque, ce village venait d'être déclaré tabou, avec ses maisons, ses arbres, ses habitants, et jusqu'aux eaux de la Reva qui en baignent la grève. Les indigènes n'eussent permis à personne d'y prendre pied. C'est une coutume sinon très respectable, du moins très respectée que le tabou. Sébastien Zorn en savait quelque chose, et on la respecta. Lorsque les excursionnistes longent Naitsari, le pilote les invite à regarder un arbre de haute taille, un tavala, qui se dresse dans un angle de la rive. « Et qu'a-t-il de remarquable, cet arbre ?» demande Frascolin. « Rien, » répond le pilote, « si ce n'est que son écorce est rayée d'incisions depuis ses racines jusqu'à sa fourche. Or, ces incisions indiquent le nombre de corps humains qui furent cuits en cet endroit, mangés ensuite. » « Comme qui dirait les encoches du boulanger sur ses bâtonnets, » observe Pinchina, dont les épaules se haussent en signe d'incrédulité. Il a tort, pourtant. Les îles Fidji ont été par excellence le pays du cannibalisme, et, il faut y insister, ces pratiques ne sont pas entièrement éteintes. La gourmandise les conservera longtemps, chez les tribus de l'intérieur. Oui, la gourmandise, puisqu'au dire des Fidjiens, rien n'est comparable pour le goût et la délicatesse à la chair humaine, très supérieure à celle du bœuf. À en croire le pilote, il y eut un certain chef, Ra Undrenudu, qui faisait dresser des pierres sur son domaine, et quand il mourut, leur nombre s'élevait à 822. Et savez-vous ce qu'indiquaient ces pierres ? « Il nous est impossible de le deviner, » répond Iverness, même en y appliquant toute notre intelligence d'instrumentiste. Elles indiquaient le nombre de corps humains que ce chef avait dévorés. À lui tout seul ? À lui tout seul. C'était un gros mangeur. Se contente de répondre Pinchina, dont l'opinion est faite au sujet de ses blagues fidjiennes. Vers 11 heures, une cloche retentit sur la rive droite. Le village de Naïli, composé de quelques paillettes, apparaît entre les frondaisons, sous l'ombrage des cocotiers et des bananiers. Une mission catholique est établie dans ce village. Les touristes ne pourraient-ils s'arrêter une heure, le temps de serrer la main du missionnaire, un compatriote ? Le pilote n'y voit aucun inconvénient, et l'embarcation est amarrée à une souche d'arbres. Sébastien Zorn et ses camarades descendent à terre, et ils n'ont pas marché pendant 2 minutes qu'ils rencontrent le supérieur de la mission. C'est un homme de 50 ans environ, physionomie avenante, figure énergique, tout heureux de pouvoir souhaiter le bonjour à des Français. Il les emmène jusqu'à sa case, au milieu du village, qui renferme une centaine de Fidjiens. il insiste pour que ses hôtes acceptent quelques rafraîchissements du pays. Que l'on se rassure, il ne s'agit pas du répugnant cava, mais d'une sorte de boisson, ou plutôt de bouillon d'assez bon goût, obtenu par la cuisson des cireae, coquillages très abondants sur les grèves de la Reva. Ce missionnaire s'est voué corps et âme à la propagande du catholicisme, non sans de certaines difficultés, car il lui faut lutter avec un pasteur wesleyen qui lui fait une sérieuse concurrence dans le voisinage. En somme, il est très satisfait des résultats obtenus, et convient qu'il a fort à faire pour arracher ses fidèles à l'amour du bucalo, c'est-à-dire de la chair humaine. « Et puisque vous remontez vers l'intérieur, mes chers hôtes, ajoute-t-il, soyez prudents et tenez-vous sur vos gardes. »« Tu entends, Pinchina ?» dit Sébastien Zorn. On repart un peu avant que l'Angélus de midi ait sonné au clocher de la petite église. Chemin faisant, l'embarcation croise quelques pirogues à balancier, portant sur leur plateforme des cargaisons de bananes. C'est la monnaie courante que le collecteur de taxes vient de toucher chez les administrés. Les rives sont toujours bordées de lauriers, d'acacias, de citronniers, de cactus aux fleurs d'un rouge de sang. Au-dessus, les bananiers et les cocotiers dressent leurs hautes branches chargées de régime, et toute cette verdure se prolonge jusqu'aux arrière-plans des montagnes, dominées par le pic du Mbugelevu. Entre ces massifs se détachent une ou deux usines à l'européenne, peu en rapport avec la nature sauvage du pays. Ce sont des fabriques de sucre, munies de tous les engins de la machinerie moderne, et dont les produits, a dit un voyageur, M. Verschnur, peuvent avantageusement soutenir la comparaison vis-à-vis des sucres des Antilles et des autres colonies. Vers 1 heure, l'embarcation arrive au terme de son voyage sur la Reva. Dans 2 heures, le jusant se fera sentir, et il y aura lieu d'en profiter pour redescendre la rivière. Cette navigation de retour s'effectuera rapidement, car le reflux est vif. Les excursionnistes seront rentrés à Tribord Arbor avant 10 heures du soir. On dispose donc d'un certain temps en cet endroit, et comment le mieux employer qu'en visitant le village de Tampu, dont on aperçoit les premières cases à 1/2 mille. Il est convenu que le mécanicien et les 2 matelots resteront à la garde de la chaloupe, tandis que le pilote pilotera ses passagers jusqu'au village, où les anciennes coutumes se sont conservées dans toute leur pureté fidjienne. En cette partie de l'île, les missionnaires ont perdu leur peine et leur sermon. Là règnent encore les sorciers. Là fonctionnent les sorcelleries, surtout celles qui portent le nom compliqué de Vakandra-ni-Kantaka, c'est-à-dire la conjuration pratiquée par les feuilles. On y adore les Katoavu, des dieux dont l'existence n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin, et qui ne dédaignent pas des sacrifices spéciaux, que le gouverneur général est surtout impuissant à prévenir et même à châtier. Peut-être eût-il été plus prudent de ne point s'aventurer au milieu de ces tribus suspectes. Mais nos artistes, curieux comme des Parisiens, insistent, et le pilote consent à les accompagner, en leur recommandant de ne point s'éloigner les uns des autres. Tout d'abord, à l'entrée de Tampu, formée d'une centaine de paillotes, on rencontre des femmes, de véritables sauvagesses. Vêtues d'un simple pagne noué autour des reins, elles n'éprouvent aucun étonnement à la vue des étrangers qui viennent les émouvoir dans leurs travaux. Ces visites ne sont plus pour les gêner, depuis que l'archipel est soumis au protectorat de l'Angleterre. Ces femmes sont occupées à la préparation du curcuma, sorte de racine conservée dans des fosses préalablement tapissées d'herbes et de feuilles de bananier. On les en retire, on les grille, on les racle, on les presse dans des paniers garnis de fougères, et le suc qui s'en échappe est introduit dans des tiges de bambou. Ce suc sert à la fois d'aliment et de pommade, et à ce double titre, il est d'un usage très répandu. La petite troupe entre dans le village. Aucun accueil de la part des indigènes qui ne s'empressent ni à complimenter les visiteurs, ni à leur offrir l'hospitalité. D'ailleurs, l'aspect extérieur des cases n'a rien d'attrayant. Étant donné l'odeur qui s'en dégage, où domine le rance de l'huile de coco, le quatuor se félicite de ce que les lois de l'hospitalité soient ici en maigre honneur. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés devant l'habitation du chef, celui-ci, un Fidjien de haute taille, l'air farouche, la physionomie féroce, s'avance vers eux au milieu d'un cortège d'indigènes. Sa tête, toute blanche de chaud, est crépue. Il a revêtu son costume de cérémonie, une chemise rayée, une ceinture autour du corps, le pied gauche chaussé d'une vieille pantoufle en tapisserie, et, comment Pinchina n'a-t-il pas éclaté de rire, un antique habit bleu à boutons d'or. En maint endroit rapiécé, et dont les basques inégales lui battent les mollets. Or, voici qu'en s'avançant vers le groupe des papalangui, ce chef bute contre une souche, perd l'équilibre, s'étale sur le sol. Aussitôt, conformément à l'étiquette du baie mûri, tout l'entourage de trébucher à son tour et de s'affaler respectueusement afin de prendre sa part du ridicule de cette chute. Ceci est expliqué par le pilote, et Pinchina approuve cette formalité, pas plus risible que tant d'autres en usage dans les courses européennes, à son avis du moins. Entre-temps, lorsque tout le monde s'est relevé, le chef et le pilote échangent quelques phrases en langue fidjienne, dont le quatuor ne comprend pas un mot. Ces phrases, traduites par le pilote, n'ont d'autre objet que d'interroger les étrangers sur ce qu'ils viennent faire au village de Tampu. Les réponses ayant été qu'ils désirent simplement visiter le village et faire une excursion aux alentours, cette autorisation leur est octroyée après échange de quelques demandes et réponses. Le chef d'ailleurs ne manifeste ni plaisir ni déplaisir de cette arrivée de touristes à Tampu, et sur un signe de lui, les indigènes rentrent dans leur paillote. Après tout, ils n'ont pas l'air d'être bien méchants, fait observer Pinchina. Ce n'est point une raison pour commettre quelque imprudence, répond Frascolin. Une heure durant, les artistes se promènent à travers le village, sans être inquiétés par les indigènes. Le chef à l'habit bleu a regagné sa case, et il est visible que l'accueil des naturels est empreint d'une profonde indifférence. Après avoir circulé dans les rues de Tampu, sans qu'aucune paillote ne se soit ouverte pour les recevoir, Sébastien Zorn, Ivernes, Pinchina, Frascolin et le pilote se dirigent vers des ruines de temples, sorte de masure abandonnée, située non loin d'une maison qui sert de demeure à l'un des sorciers de l'endroit. Ce sorcier, campé sur sa porte, leur adresse un coup d'œil peu encourageant, et ses gestes semblent indiquer qu'il leur jette quelque mauvais sort. Frascolin essaie d'entrer en conversation avec lui, par l'intermédiaire du pilote. Le sorcier prend alors une mine si rébarbative, une attitude si menaçante, qu'il faut abandonner tout espoir de tirer une parole de ce porc-épic fidjien. Pendant ce temps, et en dépit des recommandations qui lui ont été faites, Pinchina s'est éloigné, en franchissant un épais massif de bananiers étagé au flanc d'une colline. Lorsque Sébastien Zorn, Ivernes et Frascolin, rebutés par la mauvaise grâce du sorcier, se préparent à quitter Tampu, ils n'aperçoivent plus leurs camarades. Cependant, l'heure est venue de regagner l'embarcation. Le jusson ne doit pas tarder à s'établir, et ce n'est pas trop des quelques heures qu'il dure pour redescendre le cours de la Reva. Frascolin, inquiet de ne point voir Pinchina, le hèle d'une voix forte. Son appel reste sans réponse. « Où est-il donc ?» demande Sébastien Zorn. « Je ne sais, » répond Ivernes. « Est-ce que l'un de vous a vu votre ami s'éloigner ?» interroge le pilote. « Personne ne l'a vu. » « Il sera sans doute retourné à l'embarcation par le sentier du village, » dit Frascolin. « Il a eu tort, » répond le pilote, « mais ne perdons pas de temps et rejoignons-le. » On part, non sans une assez vive anxiété. Ce Pinchina n'en fait jamais d'autre, et de regarder comme imaginaire les férocités de ces indigènes, demeurés si obstinément sauvages, cela peut l'exposer à des dangers très réels. En traversant Tampu, le pilote remarque avec une certaine appréhension qu'aucun Fidjien ne se montre plus. Toutes les portes des paillotes sont fermées. Il n'y a plus aucun rassemblement devant la case du chef. Les femmes qui s'occupaient de la préparation du curcuma ont disparu. Il semble que le village ait été abandonné depuis une heure. La petite troupe presse alors le pas. À plusieurs reprises, on appelle l'absent, et l'absent ne répond point. N'a-t-il donc pas regagné la rive du côté où l'embarcation est amarrée? Ou bien est-ce que l'embarcation ne serait plus à cet endroit, sous la garde du mécanicien et des deux matelots? Il reste encore quelques centaines de pas à parcourir. On se hâte, et dès que la lisière des arbres est dépassée, on aperçoit la chaloupe et les trois hommes à leur poste. « Notre camarade !» crie Frascolin. « N'est-il plus avec vous ?» répond le mécanicien. « Non, depuis une demi-heure. »« Ne vous a-t-il point rejoint ?» demande Ivernes. « Non. » Qu'est donc devenu cet imprudent ? Le pilote ne cache pas son extrême inquiétude. « Il faut retourner au village, » dit Sébastien Zorn. « Nous ne pouvons abandonner Pinchina. » La chaloupe est laissée à la garde de l'un des matelots, bien qu'il soit peut-être dangereux d'agir ainsi. Mais mieux vaut ne revenir à Tampu qu'en force et bien armé cette fois. Dût-on fouiller toutes les paillotes, on ne quittera pas le village, on ne ralliera pas Standard Island sans avoir retrouvé Pinchina. Le chemin de Tampu est repris. même solitude au village et aux alentours. Où donc s'est réfugiée toute cette population? Pas un bruit ne se fait entendre dans les rues, et les paillotes sont vides. Il n'y a plus malheureusement de doute à conserver. Panchina s'est aventuré dans le bois de bananiers. Il a été saisi, il a été entraîné. Où? Quant au sort que lui réservent ces cannibales dont il se moquait, il n'est que trop aisé de l'imaginer. Des recherches aux environs de Tampu ne produiraient aucun résultat. Comment relever une piste au milieu de cette région forestière, à travers cette brousse que les Fidjiens sont seuls à connaître? D'ailleurs, n'y a-t-il pas lieu de craindre qu'ils ne veuillent s'emparer de l'embarcation, gardée par un seul matelot? Si ce malheur arrive, tout espoir de délivrer Panchina serait perdu, le salut de ses compagnons serait compromis. Le désespoir de Frascolin, d'Hivernes, de Sébastien Zorn ne saurait s'exprimer. Que faire? Le pilote et le mécanicien ne savent plus à quelle partie s'arrêter. Frascolin, qui a conservé son sang-froid, dit alors « Retournons à Standard Island. »« Sans notre camarade ?» s'écrie Hivernes. « Y penses-tu ?» ajoute Sébastien Zorn. « Je ne vois pas d'autre parti à prendre, » répond Frascolin. « Il faut que le gouverneur de Standard Island soit prévenu, que les autorités de Viti-le-Vous soient averties et mises en demeure d'agir. »« Oui, partons, » conseille le pilote. « Et pour profiter de la marée descendante, nous n'avons pas une minute à perdre. »« C'est l'unique moyen de sauver Panchina, » s'écrie Frascolin, « s'il n'est pas trop tard. » L'unique moyen, en effet. On quitte Tampu, pris de cette appréhension de ne pas retrouver la chaloupe à son poste. En vain le nom de Panchina est-il crié par toutes les bouches. Et moins troublés qu'ils le sont, peut-être, le pilote et ses compagnons auraient-ils pu apercevoir derrière les buissons quelques-uns de ces farouches Fidjiens qui épient leur départ. L'embarcation n'a point été inquiétée. Le matelot n'a vu personne rôder sur les rives de la riva. C'est avec un inexprimable serrement au cœur que Sébastien Zorn, Frascolin, Hivernes se décident à prendre place dans le bateau. Ils hésitent, ils appellent encore. Mais il faut partir, a dit Frascolin. Et il a eu raison de le dire, et l'on a raison de le faire. Le mécanicien met les dynamos en activité, et la chaloupe, servie par le jusant, descend le cours de la riva avec une rapidité prodigieuse. À 6 heures, la pointe ouest du delta est doublée. Une demi-heure après, on accoste le pierre de Tribor Harbor. En un quart d'heure, Frascolin et ses deux camarades, transportés par le tram, ont atteint Milliar City et se rendent à l'hôtel de ville. Dès qu'il a été mis au courant, Sirius Bickerstaff se fait conduire à Suva, et là, il demande au gouverneur général de l'archipel une entrevue qui lui est accordée. Lorsque ce représentant de la reine apprend ce qui s'est passé à Tampu, il ne dissimule pas que cela est très grave. Ce Français, aux mains d'une de ces tribus de l'intérieur qui échappent à toute autorité. Par malheur, nous ne pouvons rien tenter avant demain, ajoute-t-il. Contre le reflux de la Riva, nos chaloupes ne pourraient remonter à Tampu. D'ailleurs, il est indispensable d'aller en nombre, et le plus sûr serait de prendre à travers la brousse. Soit, répond Sirius Bickerstaff, mais ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est à l'instant qu'il faut partir. Je n'ai pas à ma disposition les hommes nécessaires, répond le gouverneur. « Nous les avons, monsieur, » réplique Sirius Bickerstaff. « Prenez donc des mesures pour leur adjoindre des soldats de votre milice, et sous les ordres de l'un de vos officiers qui connaîtra bien le pays. »« Pardonnez, monsieur, » répond sèchement son Excellence. « Je n'ai pas l'habitude. »« Pardonnez aussi, » répond Sirius Bickerstaff. « Mais je vous préviens que si vous n'agissez pas à l'instant même, si notre ami, notre hôte, ne nous est pas rendu, la responsabilité retombera sur vous et... » « Et ?» demande le gouverneur d'un ton hautain. Les batteries de Standard Island détruiront Suva, de fond en comble, votre capitale, toutes les propriétés étrangères, qu'elles soient anglaises ou allemandes. L'ultimatum est formel, et il n'y a qu'à s'y soumettre. Les quelques canons de l'île ne pourraient lutter contre l'artillerie de Standard Island. Le gouverneur se soumet donc, et qu'on l'avoue, il aurait tout d'abord mieux valu qu'il le fît de meilleure grâce, au nom de l'humanité. Une demi-heure après, 100 hommes, marins et miliciens débarquent à Suva, sous les ordres du commodore Simcoe, qui a voulu lui-même conduire cette opération. Le surintendant, Sébastien Zorn, Hivernes, Frascolin sont à ses côtés. Une escouade de la gendarmerie de Viti-le-Vous leur prête son concours. Dès le départ, l'expédition se jette à travers la brousse, en contournant la baie de la Riva, sous la direction du pilote, qui connaît ces difficiles régions de l'intérieur. On coupe au plus court, d'un pas rapide, afin d'atteindre Tampu dans le moins de temps possible. et il n'a pas été nécessaire d'aller jusqu'au village. Vers 1 heure après minuit, ordre est donné à la colonne de faire halte. Au plus profond d'un fourré presque impénétrable, on a vu l'éclat d'un foyer. Nul doute qu'il n'y ait là un rassemblement des naturels de Tampu, puisque le village ne se trouve pas à 1/2 heure de marche vers l'est. Le commodore Simcoe, le pilote, Callistus Munbar, les 3 Parisiens se portent en avant. Ils n'ont pas fait 100 pas qu'ils s'arrêtent et demeurent immobiles. En regard d'un feu ardent, entouré d'une foule tumultueuse d'hommes et de femmes, Panchina, demi-nu, est attaché à un arbre. Et le chef fidjien court vers lui, la hache levée. « Marchons, marchons !» crie le commodore Simcoe à ses marins et à ses miliciens. Surprise subite et terreur très justifiée de ces indigènes, auxquels le détachement n'épargne ni les coups de feu, ni les coups de crosse. En un clin d'œil, la place est vide, et toute la bande s'est dispersée sous bois. Panchina, détaché de l'arbre, tombe dans les bras de son ami Frascolin. Comment exprimer ce que fut la joie de ses artistes, de ses frères, à laquelle se mêlèrent quelques larmes, et aussi des reproches très mérités. « Mais malheureux, dit le violoncelliste, qu'est-ce qui t'a pris de t'éloigner ?»« Malheureux, tant que tu voudras, mon vieux Sébastien, répond Panchina. Mais n'accable pas un alto, aussi peu habillé que je le suis en ce moment. Passez-moi mes vêtements afin que je puisse me présenter d'une façon plus convenable devant les autorités. » Ces vêtements, on les retrouve au pied d'un arbre. Et il les reprend tout en conservant le plus beau sang-froid du monde. Puis, ce n'est que lorsqu'il est présentable, qu'il vient serrer la main du commodore Simcoe et du surintendant. « Voyons, lui dit Callistus Munbar, y croirez-vous maintenant, au cannibalisme des Fidjiens ?»« Pas si cannibales que cela, ces fils de chiens, répond son Altesse, puisqu'il ne me manque pas un membre. »« Toujours le même satané fantaisiste, s'écrie Frascolin. » Et savez-vous ce qui me vexait le plus dans cette situation de gibier humain sur le point d'être mis à la broche ? Demande Panchina. Que je sois pendu si je le devine, répliquit Vernès. Eh bien, ce n'était pas d'être mangé sur le pouce par ces indigènes. Non, c'était d'être dévoré par un sauvage en habit bleu à boutons d'or, avec un parapluie sous le bras, un horrible pépin britannique.